Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, nous sommes en compagnie de Taline Termination, historienne entre autres des mondes arméniens. Vous enseignez aussi à l'INALCO l'histoire des pays du Caucase et de l'ancien espace soviétique. Si je vous ai demandé de venir, c'est pour nous que nous évoquions ensemble l'installation d'une communauté arménienne marchande à Singapour au milieu du 19e siècle. Installation qui permit ensuite la création d'un empire maritime, dites-vous, entre l'Inde et l'Extrême-Orient. Bonjour Taline Termination.
Bonjour Sébastien.
Ce travail de recherche est né d'un voyage en Asie que vous avez effectué vous-même il y a quelque temps et où vous avez découvert, avec surprise j'ai l'impression, l'existence d'un patrimoine architectural arménien. Donc nous sommes à Singapour. Je crois même, ce patrimoine d'après un article que j'ai lu de vous, qui est remis en selle par les autorités locales de l'État de Singapour.
L'effet de surprise n'est pas total. N'importe quel guide de voyage destiné aux expatriés ou aux touristes qui viennent à Singapour peuvent lire dans les pages de ces guides qu'il y a un aspect inattendu dans l'histoire de la ville. Et parmi ces aspects inattendus, c'est justement cette trace d'une ancienne présence arménienne dans cette ville de Singapour qui a cet aspect de hub global que vous connaissez sans doute, hérissé de gratte-ciel, d'architecture New Age, avec ce symbole en particulier de la ville, qui est cet immeuble de Marina Bay. Mais dès que l'on s'éloigne un petit peu de ces monstres architecturaux, on tombe dans l'ancien quartier historique, pourrait-on dire, de Singapour, qui s'appelle le district colonial. Et dans ce district colonial se trouve une rue arménienne qui s'appelle Armenian Street. Et Armenian Street, au détour d'un virage entre le musée de la Teranagan, ce sont les Chinois des Détroits, de la vie culturelle des Chinois des Détroits, et puis après encore un autre virage qui abrite les archives nationales de Singapour, on tombe sur une église arménienne qui n'a pas tout à fait l'aspect classique des églises arméniennes car elle a une architecture plutôt coloniale dans le style
plutôt classique,
classique
au sens colonial, pas au sens arménien.
Enfin classique ressemblant aux églises protestantes ou presbytériennes qui se anglo-saxonnes et qui est en fait une église arménienne revendiquée en effet par les autorités de Singapour et le National Heritage Board de Singapour comme étant la toute première église de la ville, fondée donc en 1835 par donc une communauté arménienne locale. Et donc il est intéressant de voir comment non seulement la trace de cette présence arménienne à Singapour, mais surtout de voir comment les autorités singapouriennes revendiquent cet héritage au titre d'un héritage qui leur est propre.
Et l'église est dans quel état? Elle a été restaurée?
L'église est absolument impeccablement restaurée. C'est une visite assez étrange, car en même temps, elle est tout à fait déserte. Elle est à la fois ouverte et déserte. Donc ouverte, on l'imagine, par les autorités patrimoniales de Singapour. Mais déserte aussi à l'image de cette communauté arménienne qui n'est plus là. Il faut dire qu'au XIXe siècle, à l'époque de la fondation de cette église et donc de cette colonie, les Arméniens comptaient une centaine de familles, tout au plus, mais enfin une centaine de familles très bien établies. Ce sont des citoyens respectés et qui aujourd'hui ne comptent plus que quelques dizaines de personnes à ma connaissance et que je n'ai pas eu le temps de rencontrer.
Alors nous sommes dans la première moitié du 19e siècle, dans le contexte de l'Empire britannique, et j'ai l'impression que ces Arméniens, d'après ce que j'ai pu voir, viennent eux-mêmes d'Inde. Donc ce qui veut dire qu'il y avait une installation, des comptoirs arméniens peut-être de commerce installés en Inde à l'époque.
Alors, les Arméniens de Singapour, en tout cas ceux que l'on trouve parmi les fondateurs des principales, on pourrait dire, institutions singapouriennes d'un État, somme toute, très récent, en effet, sont originaires d'Inde, mais enfin, en réalité, leur origine remonte à plus loin, parce que l'Inde n'avait été qu'une étape dans leur parcours, qui est déjà assez considérable. En réalité, ils sont originaires de Perse, ils viennent de ce quartier disparant qui s'appelle la Nouvelle Julfa, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Ensuite, ils sont venus effectivement en Inde au tout début du 19e siècle. En général, ils ont fait escale à Bombay ou à Madras. Puis finalement, se sont plutôt établis Calcutta, qui jusqu'en 1911 est la capitale de l'Empire britannique. Et c'est plutôt à partir de Calcutta, base de navigation et de commerce, qu'ils ont pu commencer à lancer des relations commerciales et maritimes vers le sud-est asiatique, et en particulier donc de faire de Singapour une sorte d'escale dans laquelle, pour certains d'entre eux, ils se sont établis.
Alors pourquoi Singapour? Hong Kong n'existait pas encore, ou alors, ces grands ports marchands.
Singapour, c'est bien sûr dû à la situation géographique de Singapour, qui est vraiment à l'extrême pointe sud de la péninsule malaisienne. C'est une voie en fait de circulation majeure. Singapour contrôle la zone des détroits, et c'est donc une voie de circulation maritime majeure entre l'Asie du Sud-Est et l'Indonésie. C'est en fait le passage de l'océan Indien à la mer de Chine méridionale, par le passage de ces fameux détroits de Malacca et donc de Singapour. Et il suffit d'ailleurs que n'importe quel touriste monté en haut de ce fameux immeuble de Marina Bay, une hauteur absolument vertigineuse, quand on voit le passage jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, des super containers qui traversent ces détroits, on est bien persuadé d'être là dans une... Aujourd'hui encore, bien sûr, dans l'une des articulations majeures de cette économie globalisée, mais c'est déjà vrai au temps de la première globalisation, si l'on peut dire, c'est-à-dire dans le cadre des circulations commerciales de l'Empire britannique au XIXe siècle.
Vous avez identifié une famille importante dans cette communauté arménienne. Qui sont-ils? Ils sont fortunés? Alors, ils sont très intéressés par le commerce?
Je les ai identifiés, on les identifie très facilement, justement en visitant cette église arménienne de Singapour, car il y a des plaques rendant hommage aux différents donateurs de cette église. Et donc, on identifie évidemment un certain nombre d'individus qui ont joué un rôle très... très importants, qui sont très connus à Singapour, en particulier les frères Sarkis. Les frères Sarkis sont quatre frères qui ont fondé le très célèbre hôtel Raffles, qui porte le nom du fondateur de la comptoir de Singapour. Raffles était un administrateur des Indes orientales. Et donc, ce Raffles Hotel, ça, c'est encore aussi un autre objet patrimonial célébré par les autorités singapouriennes, et d'ailleurs pas simplement par les autorités, parce que cet hôtel fondé par ces quatre frères arméniens a été en fait racheté par un émir du Qatar, donc là, aujourd'hui, bien sûr, et donc restauré dans un goût que vous pouvez imaginer. Mais enfin, voilà, bon, un exemple de ces citoyens respectés qui étaient établis à Singapour. Il y en a bien sûr d'autres. Il y a un certain, il porte des noms anglicisés, un certain Edgar Carlstown, qui... probablement Kaloustian, qui lui aussi était originaire de Calcutta, avait fondé une entreprise commerciale et maritime à Singapour. Et puis, parmi d'autres exemples, on voit émerger également le nom d'une autre famille, alors famille connectée s'il en est, qui est donc cette fameuse famille Apkar, dont l'un des membres va être à l'origine de la création d'une compagnie de navigation maritime extrêmement célèbre dans la seconde moitié du 19e siècle, qui s'appelle la Apkar Line.
Et vous parlez vous-même même d'un empire maritime pour cette compagnie.
Oui, d'un empire maritime. La formule est peut-être volontairement outrée parce que les Arméniens n'ont pas la réputation habituellement d'être un peuple de la mer et encore moins un peuple de marins. Mais il est vrai que ces Arméniens-là, qui n'ont jamais mis les pieds dans l'Arménie historique, sont effectivement se placent dans la tradition des marchands et des négociants arméniens qui se sont lancés sur les grandes voies du commerce international à l'époque moderne, à partir du XVIe et du XVIIe siècle. Et donc, cette famille Abkhaz se situe tout à fait dans cette tradition-là et a su, à un moment donné, tirer les profits de sa capacité d'adaptation dans la navigation transocéanique et en particulier en établissant, à un moment donné, dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'usage des navires à vapeur dans ce grand commerce international vers l'Asie. Et en établissant donc cette liaison entre Calcutta et Singapour et au-delà Hong Kong et même jusqu'au Japon.
Alors nous parlions de leurs origines tout à l'heure, vous évoquiez la Perse, vous évoquiez cette ville, ce quartier d'Ispahan qui s'appelle la Nouvelle Julfa.
Oui.
Vous allez retourner, je crois,
pour
remonter la trace justement de ces ancêtres. Alors...
Oui, oui, c'est l'objet d'une mission que je compte accomplir cet été. Effectivement, ce qui est remarquable, c'est que c'est Abkhaz, donc qui porte en réalité un nom arménien, Abkharian, c'est le père en quelque sorte de cette dynastie que l'on retrouve dans la littérature anglaise sous le nom de Haroutun. En fait, ça s'appelle tout simplement Harutyun. Donc c'est Harutyun, enfin tout simplement, enfin je veux dire d'après la prononciation arménienne, donc Harutyun Abkharian. Ils sont effectivement originaires de la Nouvelle Julfa. Donc Nouvelle Julfa, Nord Julfa en arménien, c'est un quartier absolument remarquable qui se situe dans la proche banlieue d'Ispahan et qui a été fondé à l'initiative du Shah de Perse, Shah Abbas Ier. Donc ça, nous sommes à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, lorsque le Shah de Perse a décidé d'installer là une communauté marchande qui se trouvait au Nakhitchevan et dont le territoire venait d'être conquis par les Perses au détriment des Ottomans et donc qui a choisi...
Nakhitchevan, il faut préciser que c'est dans le début du Caucase.
Voilà, c'est le début du Caucase. Mais avec la conquête perse du Caucase, Shah Abbas décide de déporter les Arméniens qui se trouvent sur les territoires dont il vient de faire la conquête. Et il comprend très bien que cette communauté de Julfa, donc dans le Nakhchivan, communauté marchande et négociante, pourrait profiter à la prospérité de l'Empire perse. Et donc, il décide d'installer ces négociants et ces marchands absolument remarquables.
Des artisans aussi.
Des artisans aussi. Mais là, en l'occurrence, il s'agit aussi de contrôler des gens qui sont capables de faire fonctionner les réseaux du commerce international, de la soie, des pierres précieuses avec l'Asie, etc. Et donc, il prend la décision d'installer ses marchands et ses négociants dans ce quartier tout à fait à part.
Ispahan, sa capitale.
Qui est de l'autre côté, oui, de l'autre côté du fleuve, à Ispahan. Donc ça,
et nous sommes à quelle époque à peu près ?
Sa capitale, nous sommes au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et donc est établie là une ville de négociants arméniens dans un quartier entièrement neuf, avec des rues quadrillées.
Avec une cathédrale magnifique.
Une cathédrale et aussi 12 églises établies justement grâce à la prospérité de certains de ces marchands qui sont donc installés là. Alors avec un statut un peu particulier, parce qu'ils sont à la fois une classe privilégiée protégés par le Shah de Perse de façon personnelle, mais de l'autre côté, ils sont en même temps assignés à résidence. Enfin, ils sont évidemment attachés à la personne, à la personne du Shah et aussi au pouvoir. Et donc, tant que ce quartier de la Nouvelle Julfa a pu bénéficier de ces conditions spéciales, ces négociants sont restés là. Alors, évidemment, l'histoire ultérieure de ce quartier connu évidemment des vicissitudes qui sont celles de l'Empire perse en général. Les successeurs de Shah Abbas n'ont pas...
ont été beaucoup moins tolérants, beaucoup moins cléments.
Moins tolérants, moins enclins à reconduire ces privilèges qu'ils avaient concédés à cette classe de négociants. Et puis, bon, il y a eu les vicissitudes de l'histoire, la prise de Ispahan par les Afghans en 1722, la chute de la dynastie Safavide, enfin bref, toute une série de raisons qui ont fait que certains de ces négociants ont pris la décision de s'en aller.
Et donc, ils sont partis encore plus à l'est.
Voilà, pour alors, une partie de ces d'abord familles. Vers le sud, vers Shiraz, puis Bouchir, le port sur le golfe Persique, et puis enfin émigrer donc vers le sous-continent indien, s'établir dans un certain nombre de villes, soit ils rejoignent des compatriotes anciennement établis à Agra.
Agra, dans le nord de l'Inde.
Oui. En Inde, ou alors s'établissant à Surat, puis Bombay, Calcutta, Madras, etc. Mais surtout, enfin...
On assiste à un nouvel exode, finalement, à partir de la nouvelle Djoulfa, de ces familles arméniennes fortunées, habituées, disons, au négoce.
Et à l'aventure aussi,
qui
se lance dans
des
aventures.
Voilà, le mot aventure est très important.
Ah, très important, parce qu'il se lance, dans des aventures risquées. Enfin, risquées puisque sont engagées ici des histoires de compagnies maritimes, de prises de risques absolument énormes, aussi bien pour les hommes, pour les bateaux et pour les cargaisons qu'ils transportent.
Alors, nous sommes avec Taline Termination ce matin dans Chrétien d'Orient avec Sébastien de Courtois pour évoquer l'installation d'une communauté arménienne à Singapour. Vous allez aller en Iran très, très prochainement pour retrouver la trace de ces familles. Que pensez-vous trouver là-bas? Vous pensez qu'il y a des archives encore sur...
Bien de ma correspondance avec la responsable de la bibliothèque de l'église arménienne.
Donc il reste des Arméniens à Ispahan, c'est ça aussi que...
À Ispahan, oui, bien sûr.
Donc il reste une communauté arménienne.
Il reste une communauté arménienne.
Qui s'occupe de cet héritage, de cette mémoire.
Apparemment. Là, je ne peux pas raconter mon voyage à l'avance, mais en tout cas, je suis en contact avec l'archiviste qui s'occupe des archives qui sont entreposées dans une bibliothèque non loin de l'église de Vinc, qui est l'une de ces 12 églises remarquables de la nouvelle Djoulfa. Enfin, 12 églises, c'est quand même assez considérable pour un quartier que j'imagine quand même pas complètement immense. Donc, enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est la première question que je lui ai posée. Avez-vous des archives relatives à Harutyun Abkar, le fondateur de cette fameuse dynastie Abkar? Et la réponse a été affirmative. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'une hâte, c'est de me plonger dans ces archives et de voir de quoi il s'agit, car il sera en effet très intéressant bien d'établir en quelque sorte une histoire sur le long terme de cette dynastie de marchands, parce que je suis à peu près certaine, bien sûr, que l'histoire des Abkar dans la nouvelle Djoulfa est aussi une histoire de dynastie négociante et marchande. Voilà.
Est-ce que nous savons, après Singapour, si des familles arméniennes sont allées plus loin, sont allées vers la Chine, par exemple, vers le Japon, pour le négoce, pour le transport de
bien entendu,
d'opium,
Singapour n'était qu'une étape. C'est peut-être, je n'ai peut-être pas été assez clair tout à l'heure. S'ils sont installés, d'ailleurs, enfin, s'ils ont installé un certain nombre de leurs agents ou des membres de leur famille à Singapour, c'est parce que Singapour est une étape obligé dans le commerce avec la Chine. Et donc, dans ce commerce avec la Chine au XIXe siècle, intervient bien sûr au premier chef le commerce de l'opium, avant les guerres de l'opium, mais après aussi, sous une forme, disons, plus légale et autorisée, une fois que les Européens ont forcé la Chine à s'ouvrir à ce commerce. Et donc, là, bien sûr, ce qui est absolument passionnant, c'est de voir comment cette Abkar Line, donc, compagnie de navigation désormais modernisée, navigation à vapeur, ce qui signifie dans l'océan Indien que donc cette compagnie est susceptible d'assurer des horaires réguliers, ce qui n'était pas le cas auparavant, car les bateaux à voile étaient contraints par le calendrier de la mousson, par la venue des vents de secteur sud, ouest, ou que sais-je encore. Bref, et que donc, grâce à cette modernisation et l'introduction de la navigation à vapeur, ils contrôlent ainsi toute la filière de l'opium qui va très précisément de Calcutta jusqu'au port chinois.
Ils ont été les premiers à porter la vapeur, à mettre des navires à vapeur dans cette
partie. Ils étaient parmi les premiers, oui.
Donc des aventuriers, des innovateurs.
Des aventuriers, des innovateurs, parce que la navigation à vapeur, d'après mes lectures, a été introduite beaucoup plus tardivement dans l'océan Indien. Bon, on le sait, la navigation à vapeur est née dans le bassin atlantique, mais dans l'océan Indien, les conditions étaient beaucoup plus compliquées, tout simplement parce que pour faire de la vapeur, il faut aussi du carburant et du charbon. Et l'un des aspects intéressants d'ailleurs, c'est que les Apkhaz, dans la région de Calcutta, dont ils sont donc secondairement originaires en Inde, ont fait l'acquisition à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle de mines de charbon. Si bien que donc, de cette mine de charbon jusqu'au fonctionnement de la navigation à vapeur, jusqu'au trafic de l'opium, ils finissent à un moment donné par contrôler l'ensemble de la filière. C'est pour ça que j'ai intitulé ça l'alliance de la vapeur et de l'opium. Enfin, il y a quelque chose de tout à fait fascinant. Mais bien sûr, cet empire maritime ne va pas durer, se révèle finalement assez fragile.
Dernière petite question, Taline Termination. Vous êtes historienne, vous êtes chercheur. Vous avez été touchée de voir cette église arménienne de Singapour?
Oui, j'ai été touchée, mais enfin touchée et surtout fascinée, si vous voulez, par la capacité de ces Arméniens à se lancer par le vaste monde. Et donc, si je pense que ces nouveaux courants de l'historiographie dont on parle, d'histoire connectée, d'histoire globale, etc., je pense que ces Arméniens de Singapour sont un magnifique exemple justement d'histoire connectée.
Taline Termination, je vous remercie infiniment d'être venu ce matin pour évoquer les Arméniens de Singapour.
Merci à vous.
Je remercie Dany Journeau, Anne-Catherine Lochard, Alain Joubert pour la réalisation de cette émission. Nous retrouvons maintenant le service protestant avec Michel Schaeffer. Merci.